Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet accent très estival.
Dar conge de l'amour, dar conge de la mèche,
nous partons dans le nord de la Macédoine, près de la frontière serbe et du camp de Tabanovce. C'est un camp de transit cerné d'une clôture de barbelés que les autorités tentent de vider. À quelques centaines de mètres, dans le no man's land de la frontière, des réfugiés sont abandonnés à leur sort, mais ils se sentent piégés. Simon Rico est allé à leur rencontre.
Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans le camp de transit de Tabanovce. Pour les journalistes, les accréditations sont délivrées au compte-gouttes et même les travailleurs humanitaires doivent signaler tout leur mouvement à la police qui garde l'entrée. Un grillage de 3 mètres rehaussé de barbelés clôt le camp et depuis le 20 mars, les réfugiés n'ont plus le droit de sortir. Officiellement, il s'agit de protéger le village voisin des nuisances et d'éviter que les trafiquants ne puissent venir proposer leurs services. Yama était journaliste à Herat, la grande ville de l'ouest de l'Afghanistan.
Comment vous dire ? On n'est pas pessimiste, mais bon, on a l'impression d'être enfermé dans une prison. Maintenant, il y a une immense barrière qui encercle tout le camp, on n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer. Cela fait plus d'un mois que nous sommes ici et on n'a toujours aucune information, aucune réponse à nos questions.
Désormais, les règles sont strictes dans le camp. Pas d'alcool, pas de sortie. Et si les réfugiés veulent acheter quoi que ce soit, ils doivent cantiner auprès de la Croix-Rouge, selon un régime quasi pénitentiaire. Mais pour Goran Stojanovski, le directeur du centre de crise, pas de doute, les réfugiés de Tabanovce sont les mieux traités de toute la route des Balkans.
Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Vous avez vu les conditions d'accueil que la France offre dans la Manche à Calais ? Ici, les gens sont habillés, on leur offre des vêtements. On leur donne de quoi se nourrir, ils reçoivent une aide médicale, ils bénéficient des plus hauts standards de l'aide humanitaire. Quand ces gens arrivent chez vous, en France, en Allemagne, quand on leur demande quel est le pays dont ils gardent le meilleur souvenir, ils répondent tous « la Macédoine ».
En réalité, les conditions sanitaires sont de plus en plus mauvaises à Tabanovce. Une épidémie de gale se répand même parmi les réfugiés et la promiscuité additionnée à l'enfermement ne font qu'empirer la situation. Faute de moyens, les volontaires de la Croix-Rouge ne soignent que les urgences. Amir a fui l'Afghanistan avec sa famille. Il s'inquiète pour sa femme, qui souffre de graves problèmes rénaux.
Ma femme a subi une transplantation d'un rein. Elle n'a presque plus de médicaments pour se soigner. Si on ne lui en donne pas de nouveau, elle va mourir. Nous avons vraiment besoin d'aide.
À Tabanovce, les journées s'écoulent lentement. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre les distributions de nourriture et de tourner en rond dans les allées gravillonnées du camp. Dans les grandes tentes, certains écoutent de la musique sur leur téléphone, d'autres jouent aux cartes. Pour tous, le pire reste l'incertitude.
Nous attendions avec impatience le sommet entre l'Union européenne et la Turquie. Nous espérions vraiment qu'ils évoqueraient notre situation, nous qui sommes bloqués ici dans les Balkans. Mais malheureusement, aucun pays européen ne s'est intéressé à notre sort. Aujourd'hui, nous perdons espoir. De temps en temps, nous interrogeons le HCR ou les autres organisations. Mais leur seule réponse, c'est « attendez » ou « peut-être ».
Maybe. Dans le village de Tabanovce, à moins d'un kilomètre de la gare de fret où s'est installé le camp, on a longtemps toléré la présence des réfugiés. Certains habitants ont même proposé leur aide, mais aujourd'hui ils sont exaspérés. Slavica, la quarantaine, tient la toute petite épicerie du village.
Vous n'avez qu'à constater par vous-même, ils passent ivres dans les rues du village. Allez donc voir chez eux. Ils ne viennent pas chez moi, je ne leur vends pas d'alcool. Je suis une femme seule, j'ai mes enfants, mon mari est chauffeur, il n'est pas souvent là. Vous savez, moi, je ne veux pas avoir de problème. Un point, c'est tout.
Pour l'instant, aucun accès de violence n'est à déplorer. Mais pour combien de temps encore ? Officiels, volontaires, réfugiés et riverains, à Tabanovce, tout le monde espère de l'Union européenne une réponse rapide et claire à la crise. En attendant, Skopje a prolongé l'état d'urgence jusqu'à la fin 2016.
Ce n'est pas parce qu'une école anglaise semble sortir tout droit d'un roman de Harry Potter qu'elle n'est pas moderne, voire très moderne. Le très cher et prestigieux Collège de Brighton veut montrer son ouverture d'esprit. L'établissement autorise désormais filles et garçons à choisir l'uniforme qu'ils veulent porter, jupe ou pantalon, indépendamment de leur sexe biologique. Et c'est Marie Billon qui nous appelle de Londres.
C'est une révolution à l'anglaise. On conserve les traditions, mais on ne s'empêche pas de vivre à cause d'elles. On les fait simplement évoluer. L'uniforme dans les écoles, collèges et lycées du pays fait partie de ces traditions. Chaque établissement a ses couleurs, mais elles ne doivent pas effacer la personnalité des élèves, estime Richard Kane, le proviseur. « Je veux les respecter pour ce qu'ils sont », explique-t-il. Il a donc décidé de modifier un règlement vieux de 170 ans. Désormais, les adolescents peuvent porter l'uniforme du sexe auquel ils s'identifient. Tant que l'habit est porté et que l'élève n'est pas débraillé, il peut choisir ce qu'il veut. Les garçons ont droit à la jupe et les filles au pantalon. À noter que la possibilité n'est offerte qu'aux plus de 11 ans. D'habitude, les écoles essaient de régler la question au cas par cas quand un élève émet le souhait de ne pas porter l'uniforme qui lui est assigné. Mais si, dans le meilleur des cas, l'établissement accepte de faire une entorse à la règle pour cet élève, ça en fait une exception, il ou elle est officiellement mis à part. C'est donc une première en Angleterre, même si une université avait déjà fait un pas dans ce sens. Depuis 2012, Oxford accepte que les étudiants passent leurs examens dans l'uniforme qui leur convient. Pour le proviseur de Brighton, il fallait donc une solution plus générale pour son collège. En fait, c'est après s'être entretenu avec les parents d'une élève et après que d'autres familles l'aient contacté sur le sujet que Richard Kane a pris cette décision. Interrogés par la presse britannique, les élèves ne se disent pas choqués, ils sont plutôt même fiers d'être dans une école où il n'y a pas de normes ou d'obligations de conformité. Aucun parent n'a été interrogé par les médias, mais on n'inscrit pas son enfant dans une école à plus de 15 000 euros l'année par hasard, et le Brighton College est réputé pour être l'un des plus progressistes du pays.
Avec le capitalisme, la République tchèque a aussi découvert dans les années 90 les casinos et les salles de jeux qui se sont développées de manière sauvage. Les machines à sous sont même autorisées dans les bars, les restaurants et les stations-service. Ce n'est qu'en février, avec l'adoption de la nouvelle loi, que les premiers freins contre cette industrie puissante devaient voir le jour. Les ravages sont visibles dans la société. 100 000 personnes sont accros au jeu. Alors, est-ce la fin de l'empire du jeu ? C'est un reportage de Frédéric Lebel.
Prague, son château, ses tramways qui crissent sur la chaussée et ses casinos. Impossible de les rater. À chaque coin de rue, les enseignes clinquantes des Star Casino et autres bancos s'affichent, quand ce ne sont pas les vitres opaques des salles de jeu ou les centaines de milliers de machines à sous disséminées un peu partout. Aux côtés des touristes, les Tchèques ont pris goût à ces paris, beaucoup trop parfois. Martin a 32 ans. Il est en thérapie après avoir brûlé 8 ans de sa jeunesse dans le jeu.
J'ai commencé à jouer très jeune quand j'étais avec ma bande de copains et on s'amusait. On jouait au baby-foot, on joue au billard, on joue au bowling. Et dans ces endroits, on a aussi essayé les machines à sous. Moi, j'ai vraiment ressenti comme un appel vers les machines à sous. J'ai un vrai potentiel addictif et donc je me suis mis à jouer de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne une drogue. Je n'arrivais pas à m'arrêter et ça a pris du temps avant que je cherche un traitement.
František partage avec Martin ce même aveuglement face à son addiction. Lui qui était directeur marketing d'un centre de Paris, justement, a tout perdu.
Au début, je ne voyais pas le problème. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Je me disais que j'allais gagner de l'argent, que j'allais résoudre mes problèmes. Et dans mon errance, je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. Ça m'a conduit à une débâcle sociale, financière et personnelle. Et il a fallu que je trouve un établissement de soins, et c'était difficile.
Qu'est-ce qui a fait le déclic où vous vous êtes dit « c'est plus possible, faut que je me soigne » ?
Quand je me suis retrouvé à la rue.
Pour tous ces rescapés, les hôpitaux ont développé des cellules parfois spécialisées uniquement dans les addictions au jeu. Dans un des plus vieux établissements psychiatriques de Prague, Bornice, le docteur Andrea Shintsova a ouvert une consultation pour ces patients très particuliers.
Les personnes qui sont attirées par le jeu présentent des traits narcissiques. Leur estime de soi est déconnectée de ce que les autres pensent d'eux. Elle dépend uniquement de l'argent dont ils disposent. Ils ont même souvent besoin d'avoir du liquide sur eux. Ce sont des gens qui ont un fort esprit de compétition et qui veulent obtenir par le jeu une forme de confirmation sociale. L'aspect financier du gain leur fait plaisir, mais en même temps, ils rejouent tout ce qu'ils gagnent. Donc on peut dire que ça a surtout une valeur symbolique.
Les pénises sont symboles. Parce que leur corps n'a pas souffert de doses d'alcool ou de drogue à outrance, ces patients ont, dit-elle, plus de chances de se reconstruire, même s'ils restent extrêmement fragiles.
Il n'y a pas de manque physique dans cette addiction. Par contre, au niveau psychique, il y a un énorme manque. Les patients ont des cauchemars et surtout, il y a un énorme risque de suicide. C'est dans ce type d'addiction que le risque est le plus élevé. La culpabilité est extrême et je ne connais aucun joueur qui n'a pas pensé au suicide.
Pour réaliser le sevrage, cette psychologue utilise beaucoup l'hypnose afin de désactiver l'excitation que le joueur ressent à proximité d'une salle de jeu. Et dans un pays où on peut même tomber sur une machine à sous en faisant son plein d'essence, les tentations sont multiples. Martine.
C'est très difficile d'éviter les machines à sous dans ce pays. C'est même presque impossible. À chaque coin de rue, vous pouvez trouver une salle de jeu ou un petit tripot. Et même dans les restaurants ou dans les bars, vous allez tomber sur une machine. Alors au début de l'abstinence, c'est vraiment dur parce qu'on n'arrive pas à éviter ces endroits.
Pour la première fois, le gouvernement tchèque commence à prendre la mesure du ravage causé par les jeux de hasard. De 300, le nombre de casinos à Prague devrait passer à 101 cette année. Mais il ne faut pas sous-estimer le lobby du secteur et sa capacité à réagir.
Je sais qu'à Kroměříž, une ville de Moravie, la municipalité a interdit toutes les salles de jeux. Mais les gérants ont trouvé une parade. Plutôt que des machines à sous traditionnelles, ils ont installé ce qu'ils appellent des chrysomates. Ce sont des machines qui fonctionnent à la manière d'un jeu télévisé. On pose une question de culture générale aux joueurs et les gains sont en fonction de la réponse. Donc, grâce à cette question, on peut prétendre qu'il ne s'agit pas d'un jeu de hasard et ainsi contourner la loi.
Dans la nouvelle loi, un fichier de joueurs à risque devrait aussi pour la première fois voir le jour. De quoi rassurer František. À 55 ans, il a repris le chemin de l'école en faculté de médecine pour devenir thérapeute spécialisé dans les addictions, certain qu'il peut apporter quelque chose à tous ceux qui, comme lui, sont tombés dans le piège.
J'ai simplement compris que l'argent ne fait pas le bonheur, ou en tout cas qu'on peut vivre heureux avec peu d'argent, ou un minimum. Mais c'est vrai que toute la société n'arrête pas de vous répéter qu'il faut une grande voiture, un grand appartement, tout beau, tout cher, et que seulement ensuite vous pouvez être heureux.
Une société matérialiste, mais surtout une classe politique qui a jusqu'ici profité des énormes rentrées fiscales produites par l'industrie du jeu.
Quand la magie d'Internet opère, cela donne une visite virtuelle du musée archéologique de Syracuse, en Sicile. Et c'est à découvrir sur Google Street View. Explication avec Cécile Debarge.
La visite commence comme dans la réalité. Deux clics en arrière et l'on découvre un jardin luxuriant où s'élèvent des palmiers. Deux clics en avant et voilà l'entrée du musée Paolo Orsi. Passez directement la billetterie sur Google Street View, la visite est gratuite. Pas de file d'attente non plus et des salles de musée parfaitement vides vers lesquelles nous guide un parcours fléché. Des conditions parfaites si ce n'est que tout ou presque est en deux dimensions. Pour pallier cette frustration, 12 œuvres majeures du musée sont à découvrir en 3D avec la possibilité de les faire tourner dans tous les sens à 360 degrés. Un guide audio est disponible en italien et en anglais pour donner les principales explications. 12 œuvres seulement alors que l'on se trouve dans l'un des musées archéologiques les plus importants d'Europe. Même si l'objectif est d'allonger la liste dans les mois à venir, cela résume parfaitement le projet. C'est une incroyable mise en bouche, mais cela laisse sur leur faim ceux qui souhaitent vraiment visiter le musée. S'émouvoir devant l'une des nombreuses statues de la Grèce antique ou en savoir plus en lisant les textes des panneaux explicatifs. Pour cela, il faudrait vraisemblablement bien plus encore que les 2 ans de travail et les milliers de photos prises pour explorer le musée dans les moindres recoins. Il faudrait en fait un aller simple pour Syracuse et quelques heures à disposition.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Et une fois n'est pas coutume en ce début d'année, on va écouter une jolie voix jazzy.
Je vous propose aujourd'hui une incursion dans le champ du jazz vocal avec la Danoise Mette Juhl étoile montante de la scène jazz scandinave, qui a sorti un troisième album remarquable, simplement et joliment intitulé « There is a Song ». Elle a déjà publié deux disques en 2010 et 2013, des recueils de reprises, de standards mêlés à quelques-unes de ses propres compositions. Les proportions s'inversent aujourd'hui sur ce troisième album qu'elle a entièrement écrit et composé, à l'exception de deux titres empruntés à Leonard Cohen et Antonios Carlos Jobim. Les morceaux sont doux et élégants, mais prennent par endroits les chemins d'un jazz plus contemporain et aventureux, guidé par la voix dense et souple de Mette Yule.
Berlin is calling with the blossoms of the linden tree. Spring is here, we're traveling into a sound of new music, new stories to be sung. Berlin, you've always been a rising town. Berlin is calling, and we almost forgot your name. Unfaithful lovers coming back now. We are falling in love with you again. Berlin, too insistent to ever die. We're drawn by the spirit of your name. These are the streets of new beginnings. Berlin has always been called. Go now, enjoying the flowers on the trees. The heart and the soul of Berlin, we say. Ich bin ein Berliner too.
On se quitte sur ce Berlin is Calling de Mette Yule. Merci de votre fidélité. Merci aussi à Guillaume Munier, Jérémy Bessé à la réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un instant, les infos.
le goût du monde.